Maurice Renard, le lapidaire. Il y avait à Gênes, sous le dogat d'Uberto Lazzario Catani, un lapidaire allemand fameux entre tous les marchands de pierreries. C'était une époque favorable aux célébrités pacifiques. La peste, dont la dernière épidémie avait fait des ravages très meurtriers, ne sévissait plus depuis 2 ans. Entre Venise et sa rivale, la haine séculaire mourait dans une lassitude et un affaiblissement militaire simultané. Enfin, Andrea Doria venait de délivrer sa patrie en chassant les Français, et dans Gênes indépendante, il avait constitué un nouveau gouvernement républicain dont la force et l'harmonie promettaient une ère florissante de paix intérieure. Là était l'important, car les Génois, prenant parti dans les querelles pontificales contre le pape ou contre l'empereur, entraînés dans des dissensions urbaines vers l'une ou l'autre des grandes familles ennemies, poussant au pouvoir telle classe de la population qui leur convenait, puis encore divisés sur le choix des prétendants, allumaient la guerre civile à propos de futilité, et jusqu'alors ce n'avait été que perpétuel combat entre gibelins et guelfes, Spinola et Grimaldi, noblesse et bourgeoisie, amis de Giulio et partisans d'Alberto, discorde au sein des factions et bataille dans la bataille. Mais tout cela, disait-on, n'était plus qu'un passé regrettable. Sur l'ordre d'Andrea Doria, une fusion s'opérait. Les patriciens adoptaient les bourgeois sans trop récriminer, et l'on célébrait d'assez bonne grâce des mariages mixtes. Le calme régnait donc, et les citadins s'adonnaient au commerce avec une ardeur inusitée, heureux de ne plus voir dans les rues ni cadavres de pestiférés, ni batelots prêts à partir contre un dandolo, ni gendarmes de France, ni surtout ces horribles flaques de sang caillé, témoignages d'émeutes ou de rixes, vestiges funèbres que d'ordinaire l'homme épouvanté rencontre si rarement, et dont naguère les Génois se détournaient à chaque sortie sans y pouvoir accoutumer leur répulsion. De tout temps, les étrangers, les moins proches, s'étaient mis en route afin de visiter la ville. Mais l'annonce de cette tranquillité inespérée avait multiplié leur nombre. Plus de cavaliers montés sur de robustes palefrois, à cheval entre la valise et le porte-manteau, et suivis de leurs serviteurs, franchissaient les portes bastionnées des remparts. Et surtout, on voyait débarquer à l'arrivée des nefs moins rares une recrudescence de passagers, le fait étant bien connu dans le monde, que l'on devait atteindre Gênes par mer à cause du spectacle. Rien de plus exact ne fut jamais vérifié. Mais si le tableau se trouvait être véritablement grandiose, il semblait fort énigmatique à ceux qui l'admiraient pour la première fois. Aussi les voyageurs de l'océan, comme ceux de la terre, accostés dès l'arrivée, fussent-ils ruisselants à l'égal de Triton ou plus poussiéreux que Meunier, accostés par les guides dont la race est éternelle, se rendaient-ils en leur compagnie sur le môle, d'où l'on découvrait la même vue que du large en l'écoutant expliquer. Des quais, la ville s'échelonnait sur une colline abrupte et la couvrait tout entière de toits pointus, de terrasses et de murs blancs. Elle paraissait bâtie afin que chaque maison pût voir la mer, et la cité maritime formait une tribune aux 100 gradins, préparée, semble-t-il, pour quelque naumachie colossale. La crête d'une montagne aride découpait derrière elle un horizon très élevé, couronné de forteresses et de monastères qui se ressemblaient, et Gênes profilait sur cet écran morose et menaçant la silhouette plus claire de son amphithéâtre. À voir cette disposition en escalier, on avait tout de suite l'idée que les différents ordres d'une population si partagée habitaient chacun le degré correspondant à la hauteur de sa condition sociale. On se trompait. La ville basse passait pour la plus riche, la proximité du port attirant de ce côté les marchands, et elle possédait, comme la ville supérieure, ses palais. Ils étaient visibles du môle, car la vue de cette cité presque verticale en donnait le plan, et les guides, esprits méthodiques, après avoir fait admirer la ceinture inexpugnable de gênes entourée par l'eau de la mer et du Bisagno, par des citadelles et des fortifications, ce qui faisait sourire les sujets du feu loué à Louis XIII, désignaient les édifices. San Lorenzo, San Marco, le palais d'Andrea Doria. Où donc? Au pôle loin de la Lanterna, tout près de la rive, contre le mur d'enceinte et en dehors, au milieu du jardin, ce grand château. Parfaitement. Ah, Doria, c'est le doge, n'est-ce pas? Non, il a refusé le bonnet. Le commandement de la flotte espagnole lui laisse peu de loisirs, et Doria persiste à servir l'empereur, disant de pouvoir mieux obliger les siens qu'en leur conservant un allié si considérable. La guerre pourtant lui donne du répit. Le voilà parmi nous quelque temps jusqu'aux expéditions prochaines. Il est tout puissant et le doge lui demande conseil. Les hommes de sa trempe ne devraient pas mourir et ses cheveux sont blancs. Puis le boniment récité à la façon d'une confidence accentuée de mimiques affairées, larmoyant parfois, présomptueux souvent, emphatique toujours, se poursuivait à l'occasion d'autre castel. Ah, cette tour est celle de l'Arsenal, effroyable magasin de la mort. Au centre de la ville s'élève le palais ducal. Que Dieu protège le doge. Ah, voici dans le quartier bas Nostra Donna delle Grazie, la terrasse de l'orfèvre Spironcelli, voisine de l'église, s'aperçoit fort nettement. Quel artiste! Je vous conduirai chez lui. Vous achèterez là des bijoux délicieux, agencés selon les règles récentes de l'art. Et voyez-vous maintenant une portée d'arbalète de cette maison, celle dont la toiture bleue est percée des quatre fenêtres? C'est la demeure d'Hermann Liebenstein, le beau-père de Spironcelli, le roi des lapidaires. Oh, une des gloires génoises! Il possède une merveilleuse collection de pierres. Par la Sainte Madone, on ne saurait tarder davantage à connaître un tel trésor, car il pourrait payer la rançon de toute la chrétienté si les mécréants venaient à la capturer. Alors, à travers le dédale des ruelles, les voyageurs accompagnaient leurs guides, et quand ils les questionnaient au sujet de ce lapidaire, aussi renommé que San Lorenzo, l'Arsenal ou Doria, les Italiens rusés faisaient mine de ne pas entendre et nommaient obséquieusement les passants de qualité, Marino, Garibaldi, Fiesco. Dans la rue des Archers, étroite et montante, les étrangers fort intrigués s'arrêtaient devant une habitation de belle apparence dont la porte et les fenêtres aux croisillons de pierre étaient surmontées d'une accolade sculptée retombant à droite et à gauche des ouvertures en cordons rigides fruités de raisins à leur extrémité. Le battant de chêne poussé donnait accès dans une salle lambrissée d'armoires où, derrière une table encombrée de balances, de pinces, de cuillères, aux manches perforées, de trous ronds, un jeune garçon se tenait. « Ce n'est qu'un serviteur, » disaient les guides. Ses petits yeux verts inspectaient les nouveaux venus, à l'abri d'un front minuscule encore rétréci par une chevelure courte mais envahissante. Ayant jugé à quelle sorte de pratique il avait affaire, le valet s'empressait d'aller quérir son maître, et bientôt un grand vieillard livide accueillait les étrangers d'un sourire souffrant. L'acier cliquetant d'un trousseau de clés luisait à sa hanche, sur l'étoffe sombre du costume, et l'on se demandait de quel prisonnier ce grave personnage avait la garde. C'était Hermann. La bienvenue de cet homme, trop pâle et de taille exagérée, frappait toujours ses hôtes d'étonnement et les confirmait dans cette pensée émouvante que le logis d'un être aussi anormal devait en vérité tenir du phénomène. C'est pourquoi, tout en suivant le large dos parmi l'obscurité d'un couloir, ils ébauchaient, sans même le savoir, des récits merveilleux à l'usage du retour, et ces Ulysses espagnols ou allemands, préparaient pour Burgos ou Aix-la-Chapelle la relation incroyable de leur visite au repaire d'un cyclope. Cependant, le futur polyphème des fables internationales fouillait dans l'ombre une serrure familière. Il en faisait jouer les combinaisons et l'on entendait glisser avec soumission les leviers pesants de la fermeture compliquée. Une autre clé pénétrait une seconde mécanique. La détente de ressorts lointains criait douloureusement, presque mélodieuse. Des engrenages grinçaient. Enfin, après un dernier bruit de verrou tiré sur une protestation ultime de la machine au rouage embrouillé, venue de Nuremberg, la porte épaisse s'ouvrait. Alors, toutes les paroles vantardes des guides tombaient dans l'oubli, les mots de collection, musée, galerie, trésor même, qui avaient attiré les curieux chez Hermann, eussent semblé d'une mesquinerie insultante à qui s'en fût souvenu. Mais personne n'avait d'idée, nul n'a pu dire jamais la forme de la salle, ses voûtes, ses fenêtres solidement grillées. Chacun, fasciné, vivait seulement par les yeux agrandis et regardait avec des frissons un spectacle sans pareil, dont les histoires les plus invraisemblables ne m'auraient point augmenté la splendeur. Car le vieux geôlier gardait captive la nuit étincelante des étés d'Orient. Le premier regard jeté du seuil ne distinguait dans un demi-jour crépusculaire qu'une infinité de points incandescents, et rien ne déconcertait comme cette multitude innombrable d'étoiles, si ce n'est le fait de les savoir chacune un joyau sans prix. Quelle fortune patiente et connaisseuse avait amoncelé une telle profusion de gemmes aussi parfaites, et quelle science avait su les disposer si habilement que, dans cet intérieur sombre, elles luisaient comme au soleil. Cela déroutait l'habitude et la logique. Il fallait qu'Hermann fût prodigieusement riche, savant à l'excès, et tous ces passants le vénéraient depuis qu'ils avaient découvert en lui Aristote et surtout Crésus. Lui, les joues maintenant timbrées d'un petit cercle rose et maladif, demeurait taciturne. À ce qui, s'étant approché des vitrines, avait remarqué certains arrangements des pierres par groupe, par catégorie, et lui demandait la raison de cet ordre, l'esprit de cette classification, Hermann murmurait des réponses d'un laconisme évasif, et les fâcheux ne se risquaient plus à fatiguer de questions ce spectre aux gestes harassés dont la voix tremblait. Parfois, il se trouvait, parmi les curieux, quelque orfèvre pour enseigner ses compagnons. Ces jours-là, Hermann souriait davantage et se taisait tout à fait. Mais c'était l'habitude. Les guides qui, verbeux et importants, faisaient les honneurs du magique firmament et enseignaient à leurs clients d'un jour les erreurs les plus pittoresques. L'empereur d'Allemagne, le roi de France, était venu. Mais Charles Quint n'avait rien appris de son hôte impénétrable, et François Ier s'en fut allé de même sans l'heureuse présence du joaillier de la cour. Encore un pli moqueur aux lèvres d'Hermann, ne cessa-t-il de railler le docte artisan, comme si sa harangue n'eût été que menterie ou balourdise. Certaines journées, pourtant, un visiteur solitaire, s'étant nommé avec le léger accent de Toscane, le lapidaire le conduisait à la célèbre chambre et l'entretint longuement, accordant à cet unique auditeur la grâce qu'il avait refusée au peuple de la terre comme à ses monarques. Or, sa voix devint plus chaude et plus assurée à mesure qu'il parla. Il dit « Seigneur le Benvenuto Cellini, voici mes gemmes les plus précieuses, celles que je ne vends pas, afin de m'en réjouir les yeux et aussi de peur de ruiner les nations. Toutes les espèces sont là, dans toute leur variété, rangées selon les liens divers, véritables ou supposées que les lois de la nature ou le caprice des hommes ont mises entre elles. Voilà le coin des origines. Regardez cette motte d'argile, d'un gris sale, à côté de cette boule grossière de silex, que je les nomme seulement et vous frémirez, car la motte est une gangue et la boule une géode. Je ne les ai pas faites ouvrir, elles cachent peut-être des pierres miraculeusement limpides. Mais plus loin, des choses similaires sont coupées en deux morceaux pour montrer le diamant brut, encore terne, gisant au fond de l'une et la paroi de l'autre tapissée magnifiquement d'améthyste. Sectionnez maintenant par la pensée tous ces cailloux quelconques apportés de Perse, de Boukharie, de Hongrie, et dont les nuances éteintes sont verdâtres, bleutées ou fadement polychromes. Examinez alors dans la case voisine leurs tranches sciées et polies. Ce sont des turquoises, des lapis-lazuli, des opales. Et au fond de ce bassin que vous voyez là, où des miroirs versent une resplendissante lumière, des huîtres de Polynésie élaborent lentement leurs bijoux morbides, et ce banc de moules continue de sécréter ici des perles roses commencées sous les flots de l'océan Indien. Cette autre cuve recèle un buisson de corail, chaque jour plus fleuri. Les rameaux en sont blancs, teinte inestimable. Mais pardon, ces commentaires sont superflus et vous connaissez mieux que moi les nids des cristaux, la gestation des grains nacrés et les pépinières sous-marines. J'espère vous surprendre tout à l'heure par de moindres vulgarités. Détrompez-vous, repartit Benvenuto. Il est toujours sain d'entendre les gens éclairés redire les vérités que l'on sait, car les imbéciles les répètent parfois, et la parole d'un érudit, venant à les confirmer de nouveau, leur rend la pureté primitive et la certitude. Aussi bien n'ai-je point ouï discerner des pierreries devant des modèles aussi rares que ceux-là, ni disposer si raisonnablement. Et je ne m'attendais guère à contempler dans votre maison des coquilles perlières en exercice, non plus que des bosquets de pierre pleins de vie. Mais Hermann l'entraîna vers un large panneau couvrant tout le mur principal face à l'entrée, sur lequel des centaines de tisons semblaient se consumer et, groupés dans des cadres sculptés, formaient des rangs et des colonnes, alignements incompréhensibles qui décelaient un plan mystérieux. « Ces 12 gemmes, reprit Hermann, sont les symboles des 12 mois chez les Slaves. Et voici le calendrier des Latins. Différence de race, il n'existe pas de concordance entre ces deux fantaisies. La tribu d'avril, par exemple, est ici le diamant, et là, c'est le saphir. La saison printanière, dit Cellini, a la couleur des yeux qu'on aime. C'est folie de la vouloir fixer à jamais et pour tous. Mais voilà des années aussi précieuses que le temps lui-même. Que veulent dire ces assemblages nouveaux ? Ce sont, reprit le lapidaire, les groupes des vertus, des fétiches, des médicaments et des saints. Les vertus se succèdent de haut en bas par ordre d'excellence. La sardoine qui brille au sommet signifie donc la qualité que vous priez et brisez par-dessus toutes. Oui, c'est l'emblème de la pudeur. Peu du Benvenuto. Alors cette opale, la dernière, représente probablement le pouvoir de charmer. Vous l'avez dit. Mais, reprit l'illustre ciseleur, ces pierres rendent-elles vertueux qui les portent sur soi ou bien... Oh, elles ne sont que des images, fit Hermann. Voici les fétiches, au contraire, qui sont des porte-bonheur, des alliés, écartent les cauchemars et désignent les filons d'or comme la topaze. La calcédoine met en fuite les fantômes. Et rien ne vaut l'améthyste pour chasser l'ivresse. Je savais cette propriété, dit Benvenuto Cellini, aussi ne m'a-t-on jamais vu parer d'améthyste. Je me plais à mettre l'ivresse au rang des bienfaits les plus respectables, et je plains de tout cœur les prélats de ce que l'anneau pastoral en chasse un joyau si funeste. Après tout, c'est une commodité. De les porter non à l'encolure, mais au doigt, et on se dévêt plus secrètement d'une bague que d'un collier. Mais poursuivons. Vous m'avez-vous dit la pharmacie minérale ? Hermann eut un petit rire, puis reprenant son visage sévère, ces drogues-là guérissent, répondit-il. Elles rendent la santé à ceux qui croient en elles. La foi remue même paralytiques et montagnes. J'ai accompli beaucoup de cures étonnantes, parce que le nombre des malades est moins grand que celui des crédules. Admire ces objets inertes qui exécutent de grandes choses sans force, murmura Benvenuto. Ils possèdent en tout cas la puissance qu'on leur prête. La plus formidable de toutes, puisqu'elle est à la mesure sans borne de l'imagination. Et puis, que sait-on, peut-être les créatures, rochers, bêtes et plantes, sont-elles reliées par d'obscures affinités ? Oh, comprenez-vous, dit Hermann, en saisissant les bras de l'artiste, la matière universelle est la même sous des aspects multiples. Nous sommes de l'argile dont se composent loups, reptiles, mollusques, rosiers, mousses, coraux et granites. Insensiblement, par degrés imperceptibles, en pente douce, sans choc, la nature passe du caillou, ombre et stupidité, à Benvenuto Cellini, lumière et génie. Mais au lieu de poursuivre sur ce ton, Hermann sembla se raviser et il ajouta seulement « Bon, certains végétaux sont des remèdes efficaces. Pourquoi refuser ce titre des minéraux, à peine plus éloignés de nous dans l'échelle des êtres ? Fit la lumière géniale. Vous êtes un flatteur, maître Hermann. Car cette escarboucle, un simple caillou cependant, jette des flammes que ma pauvre cervelle ne saurait jamais produire. Elle guérit de l'ophtalmie, reprit Hermann, tout à fait calmé. Et sa voisine, l'onyx, arrête les hémorragies. Voici le jade encore, pierre néphrétique, et le rubis, par quoi l'on traite la mélancolie. « Oh, l'admirable pierre !» s'écria Benvenuto. « J'en ai de plus belle, » dit fièrement Hermann. « Ah, en effet, voici une émeraude où paraît condenser l'infini globe de l'océan. » « Ah non, je ne voulais point parler de cette émeraude, » dit Hermann. « Elle resplendit au tableau des saints pour y figurer Jean l'Évangéliste et voilà près d'elle saint Matthieu. » « Encore une améthyste ? Oui, c'est en effet la pierre des cultes religieux et les anciens l'avaient consacrée à Vénus. Cette religion est plaisante, dit l'incorrigible orfèvre, car les dogmes sont indiscutables. Améthyste, sois absoute. Je pardonne saint Matthieu en faveur de Cypris. » Hermann désignait d'autres bataillons flamboyants. On a formé des alphabets avec les lettres initiales du nom des pierreries. Puis, avec un sourire, il ajouta « Ben, voici de quoi écrire Vénus en 10 langues. Nous commencerions par la vermeille, qui est ce corano écarlate. En sanskrit, il faudra le remplacer par le diamant, Vajira. En hébreu, mais Benvenuto contemplait déjà une vaste table scintillante. C'était un rendez-vous de toutes les familles de gemmes. Et chaque échantillon pouvait passer pour le plus beau du genre qu'il représentait. Du diamant au jet, l'arc-en-ciel avait répandu sur ses merveilles les 1000 gammes de son septuor. Les cristaux d'un volume surnaturel montraient une eau pure comme le vide, et l'orient des perles les faisait comparer à des rayons de lune roulés aux doigts des sirènes. Auprès de chacune gisait un petit morceau de racine de frêne pour leur conserver longue vie. Les facettes miroitantes de tous les joyaux dénotaient un art de magicien chez l'ouvrier qui les avait travaillés. Du reste, Benvenuto s'aperçut bientôt qu'un seul diamantaire pouvait les avoir façonnés de cette manière savante et mystérieuse qui les allumait dans l'ombre. Hermann choisit au milieu de cette constellation un astre blond. « Qu'est-ce là ? » dit-il. « Topaz ? » répondit Benvenuto. « Non pas. Saphir. « Et comment nommerez-vous ce brillant bleu ?»« Ben, diamant de Chypre, » fit en hésitant Benvenuto, qui n'osait pas prononcer saphir. « Non, » triompha Hermann, « c'est un béryl, une émeraude. Mais cependant, mais tout le prouve, les brisures des pierres cassées, leur densité, leur contexture, leur composition. » « En vérité, avoua le Florentin, je n'aurais jamais supposé cela. Mais votre saphir et votre émeraude ne pourront manifester aux yeux du monde tout leur mérite, puisque le plus intéressant est justement de paraître ce qu'ils ne sont pas. Ils sieraient aux Vénitiens, dans les mascarades du carnaval, d'en étaler de semblables, tout en eux serait déguisé, même la parure. Si quelqu'un désirait se travestir, répartit Hermann, je pourrais lui prêter ce costume. Il est en soie brodée de bijoux. 12 gemmes forment le pectoral, traçant des colonnes mystiques, et sur chacune, comme en un cartouche, les mots sont gravés. les noms des 12 tribus d'Israël. C'est la robe du grand prêtre Aaron, et le rational des jugements en tissé d'or et de leur lin tordu sur l'injonction de Jéhovah. À côté repose le collier de fiançailles donné par Joseph à la Vierge, le monocle vert de Néron. Enfin, voilà des camées grecques, des intailles millénaires, des dieux chinois en porphyre, des scarabées de jade dont l'achèvement remplit les existences d'Égyptiens. Tout ce bibelot vénérable par la pureté du travail, la vieillesse ou l'histoire. Il raconte assez complètement les usages différents auxquels les générations et les peuples ont employé les pierreries, éprouvant quelle estime ils ont toujours tenu ces sœurs lointaines. Benvenuto, ravi, maniait avec précaution les colliers naïfs des femmes primitives, égrenait les chapelets aux dizaines superbes, des ferrets guillochés enrichis d'algues marines firent claquer dans ses mains leurs jointures exactes. D'un coup d'œil amical, il salua certains pendants de cou finement ciselés, assemblage de chimères et de nymphes qu'un Apollon Citharède présidait parmi les volutes d'or et les gemmes. Un fil de perles soupesées bruit doucement, et comme la clarté traversait le fond translucide et violet d'un camé au regard charmé de l'artiste, Hermann le tira de son extase. « Venez, dit-il, tout ceci n'est rien. Je vais vous montrer un spectacle vraiment digne de votre admiration. » La lourde porte fit entendre en se fermant son bruit laborieux de ferraille. Les deux hommes marchèrent un instant au sein des ténèbres, puis Hermann, ayant réveillé le même tintamarre aux profondeurs d'un autre battant, ouvrit, sur le côté du couloir, un cabinet. Ils entrèrent, mais Benvenuto s'arrêta, stupéfait à la vue d'un écrin de velours vert où des rubis fabuleux de grosseur et d'éclat dardaient comme autant de braises leurs rayons écarlates. Ils avaient l'air d'étincelles divines dérobées par quelque Prométhée au feu éternel de la vie. Il y en avait 9. Ils formaient un cercle éblouissant, rompu cependant par un vide. La place d'une pierre absente, semblait-il. Cela est impossible, murmura Benvenuto. Mais ces rubis reflètent une fournaise cachée, ou tout au moins un morceau de drap cardinalis dérobé dans le couvercle de l'étui. Il en prit un, mais l'éblouissement rouge persistait, même dans ses mains jointes. Tant qu'un mince filet de lumière pouvait tomber sur une facette, le rubis tout entier irradiait, et l'orfèvre voyait le bord de ses doigts fermés, s'illuminer de pourpre comme si au travers de cet écran il avait regardé le soleil. Il replaça l'objet inquiétant sur velours vert et demeura soucieux à regarder briller la couronne infatigable. Au bout d'un instant, la dizaine de prodiges n'est pas complète, fit-il. Non, répondit le lapidaire, mais elle le sera bientôt. Vous êtes un homme surprenant. Chacun de vos rubis semble sans pareil. Or, vous en possédez 9 qu'il est impossible de différencier l'un avec l'autre, tant ils sont identiques. Et voilà que vous affirmez sérieusement acquérir bientôt le 10e, semblable aux autres en tout point. Mais de quel pays faites-vous donc venir ces Corindons géants. Vous avez là une dague dont la poignée est remarquable, dit Hermann. La coquille de la garde est fouillée à ravir. En êtes-vous l'auteur? Et Benvenuto, voyant que le vieillard se refusait poliment à répondre, prit congé de lui avec force civilité et crut, en quittant cette maison, sortir d'une légende. On croit aisément des personnes silencieuses qu'elles veulent dissimuler leurs pensées. Hermann parlant peu, les Génois s'imaginaient volontiers que sa vie recelait un mystère et ils s'efforçaient de le découvrir comme toute bonne population soucieuse de perpétuer cette coutume ancestrale, base des sociétés urbaines, l'indiscrétion. La plupart soupçonnaient l'Allemand d'hérésie, car son arrivée à Gênes avait coïncidé avec les premiers troubles luthériens. On en concluait généralement à sa couardise, mais certains absolvaient une fuite d'ailleurs problématique, en disant que le possesseur d'une telle fortune, s'il était devenu suspect à ses compatriotes, eût été lestement dépouillé de ses biens, dont il était responsable envers sa fille unique, Hilda. Or, cette vierge du Rhin avait séduit le joaillier Daniello Spironcelli, jeune ligure au teint brun, coiffé de frisons noirs. Spironcelli, enivré de tant de blondeurs inaccoutumées et voluptueusement amusé par cette voix fraîche qui cadençait avec drôlerie les mots italiens, avait épousé les blondeurs et la voix, sans souci apparent des croyances de la nationalité de son beau-père, non plus que de ses grandes richesses. Ce mariage, pourtant, avait acquis d'avance à un citoyen de la République le trésor de l'émigré, et les pires langues ne pouvaient s'empêcher de rendre grâce à Luther et à Lucifer, son patron, d'avoir dirigé de ce côté Hermann, sa fille et ses millions. Aussi bien le lapidaire menait l'existence la plus calme, ne donnant point prise à la malveillance. Il vivait maintenant seul dans sa maison de la rue des Archers, avec un serviteur unique amené d'Allemagne, Smaragd. C'était l'homme au petit front qui, dans la boutique, vendait des pierres précieuses et dont Hermann avait fait son valet et aussi son compagnon. Toute la journée, le vieillard se tenait chez lui afin de recevoir les acheteurs, les vendeurs et les curieux. Et chaque soir, régulier comme sa montre d'argent, il se rendait à la demeure luxueuse de Spironcelli, soupait en compagnie de ses enfants, comme entre le jour et la nuit, et se retirait paisiblement, toujours à la même heure. L'exactitude continuait à le gouverner, et au coin de la rue des Archers, devant une Madone à l'enfant Jésus nichée dans le mur, il ne manquait pas de se demander si Hilda et son mari, Daniello, n'allaient pas bientôt leur faire grand-père et lui donner un petit crépuscule ou bien une petite aurore. Ces habitudes de bourgeois pacifiques plaisaient aux citadins, et s'ils cherchaient à pénétrer le secret supposé d'Hermann, c'était simplement l'irrésistible instinct de savoir qui les y poussait. Même ils professaient une estime particulière envers celui dont la maison ajoutait un nouvel attrait à leur ville, et ils eussent été fort ingrats de nier qu'Hermann avait sauvé un grand nombre d'entre eux. En effet, une rumeur confuse venue on ne sait d'où avait un jour répandu cette nouvelle que le lapidaire connaissait l'art de guérir l'âme et le corps à l'aide de ses pierres. On citait de véritables résurrections, la femme du changeur, la signora Giuseppa Tornelli, qui se mourait d'insomnie perpétuelle, s'était mise à dormir 3 jours et 3 nuits durant, grâce à une chrysolite cousue dans son scapulaire. Aveugle depuis plusieurs années, l'armateur Beppo Pranza était maintenant le premier à voir les mâts de ses vaisseaux attendus dépasser l'horizon bleu du golfe. Un diamant dont il se frottait les paupières tous les matins lui avait rendu le jour. Il est vrai que la signora Tornelli avait bu certaines potions préparées par le médecin lapidaire afin de hâter les effets de la chrysolite. Il est aussi vrai que pour renforcer l'action du diamant, Hermann avait coupé quelque chose avec une petite lame dans l'œil de Beppo Pranza. Mais ce n'était là que pratiques accessoires et manœuvres humaines susceptibles tout au plus de faciliter l'affluence occulte et surnaturelle des gemmes. Pourtant, quelques envieux, ayant remarqué que le guérisseur opérait toujours de la sorte, c'est-à-dire qu'à l'imposition des pierres, il joignait systématiquement l'intervention d'un breuvage, d'un onguent ou d'un couteau, s'emparèrent de cette particularité. À force de patience, ils parvinrent à tirer de Smaragd, être simple et confiant, que souvent son maître s'enfermait dans une chambre, où se trouvaient d'un côté les ustensiles d'un apothicaire cornu, alambic, flacon de forme et de dimensions innombrables, des instruments de chirurgie, et de l'autre l'outillage nécessaire à la taille des cristaux. La calomnie voit-elle une hache dans la masure d'un bûcheron? Elle proclame « Voici la maison du bourreau ». Les jalousies jaloux décrétèrent que la cornue étant la tribu des alchimistes, Hermann cherchait sans doute la pierre philosophale, la seule qui lui manqua, et que le titre de sorcier lui convenait à ravir. Ces pierres resplendissaient d'un éclat invraisemblable. Quoi d'étonnant à cela ? Chacune était composée d'un regard humain. Seigneur, en avait-il fallu des yeux crevés pour animer une telle multitude de feux ? Le tortionnaire n'avait eu le temps de quitter l'Allemagne. On s'y préparait à le brûler, vif, en place publique. Et toutes sortes d'accusations commençaient à s'élever de ce cercle de haine et d'amertume. Elle gagnait peu à peu les plus naïfs des indifférents, lorsqu'un des calomniateurs, assez bel homme, vit avec grand déplaisir le galbe de sa gorge se déformer, se gonfler et pendre vilainement sur le pourpoint, sans que fraise au gaudron démesuré ni collerette taillée spécialement puisse dissimuler la tumeur horrifique. Le bel âtre, au désespoir, courut chez Hermann. Il rapporta un collier d'ambre, qu'il mit à son cou monstrueux, et peu de jours après, le goitre avait disparu de concert avec la médisance. Cette aventure comique ayant soulevé au profit du lapidaire l'hilarité puissante de la ville, les chalands affluèrent dans sa boutique, plus nombreux qu'auparavant, et pour satisfaire à tant de désirs, des trafiquants de tous les pays vinrent plus fréquemment trouver le colosse pâle afin de lui vendre leurs précieuses marchandises. La petite rue s'emplissait de tous ces gens, et son étroitesse leur donnait l'aspect d'une foule qui parfois s'animait jusqu'au tumulte quand les badauds flânant sur le port avaient signalé l'arrivée d'un vaisseau exotique. En effet, nombre de felouks allongés, de caravelles aux antennes courbes et pointues, venaient incessamment jeter l'ancre auprès des hautes galères de la République. Et cette flottille, gaiement disparate, amarrée contre l'escadre comme pour en corriger l'austère uniformité, amenait souvent à Gênes des courtiers, des amateurs, attirés par la réputation d'Hermann, et venus pour lui proposer des ventes ou des achats. Alors, parmi les chuchotements intéressés, hindous, turcs, africains, trouaient la cohue dont la ruelle s'encombrait, et l'on voyait disparaître par la petite porte sculptée, sous des turbans lourds de broderies ou coiffés de fez inélégants, soulevant sur leur passage soit des murmures émerveillés, soit le glapissement du sarcasme, tous ces personnages ahuris, en qui le peuple de Gênes, convaincu d'être le peuple normal, applaudissait tantôt et tantôt bafouait des exceptions magnifiques ou ridicules. Hermann présentait ses collections et il achetait les pierres tandis que Smaragd les vendait. Cela aussi était ainsi réglé. Le maître ne négociait une vente que s'il était question de grave maladie. Pour livrer de simples parures, Smaragd suffisait à la besogne, et le peu de science qu'il avait apprise dans l'intimité du lapidaire lui permettait de dispenser les remèdes usuels et de soigner les indispositions. Il distribuait les gemmes en petits fragments, car il fallait bien que chacun pût recouvrer la santé, même le pauvre. Seulement un magistrat opulent venait-il à consulter, Smaragd lui laissait entendre que les bijoux de poids suscitaient plus rapidement une guérison plus radicale qu'une infime parcelle ne l'eût fait, et les nobles comprenaient tout de suite que les médicaments doivent être à la mesure du malade. Parmi les clients, il y avait beaucoup de femmes, et elles achetaient en grande quantité l'aimant, le cristal de roche et le grenat, parce que l'un supprime la douleur des accouchements, l'autre augmente le lait des mères, et le dernier aveugle les maris trompés. C'est pourquoi des matrones sereines entraient avec dignité dans la boutique et rencontraient souvent de folles épouses qui s'en échappaient rouges et furtives, serrant leur mauvais talisman. En quittant Hermann, les marchands passaient devant Smaragd, et celui-ci trouvait souvent le moyen de les tenter, si bien qu'ils achetaient à titre d'amulette une pierre dont ils venaient de vendre la semblable en tant que denrée commerciale. Quel arabe n'eût pas été séduit par les appâts de la turquoise qui, attachée au sabot d'un cheval, l'empêche de broncher? Et les pêcheurs de corail ou de perles, n'étaient-ils point raisonnables de se procurer le monde d'or, cette providence du nageur? Smaragd, si gauche une fois séparé de ses balances et de ses coffrets, excellait dans son métier et trouvait des paroles persuasives pour dévoiler le mal ou le danger et convaincre les clients de l'efficacité de ses joyaux drogues ou de ses bijoux amulettes. Tous les courtiers de profession, réunis le soir au fond des tavernes, possédaient chacun quelques babioles bienfaisantes provenant des magasins d'Hermann, et ils se les montraient naïvement l'un à l'autre en devisant des choses de leur métier. Ceux-là n'avaient point sujet d'être surpris par la richesse du lapidaire. Il le considérait comme un artisan fort clair, habile au négoce et comme un tailleur de diamants d'une adresse peu commune. Il connaissait à sa boutique des habitués fastueux, des souverains s'y fournissaient par leur canal. Le doge était acheteur fréquent et payeur ponctuel. Enfin, un fleuve d'or coulait dans la rue des Archers et l'on déclarait fort naturel que celui dont le génie avait détourné le pactole y puisa superbement, non dans un but de lucre, mais pour amonceler en artiste les plus belles pierreries de la récréation. Un courtier rappelait alors que tel saphir de la collection avait passé par ses mains. Tel autre racontait les mésaventures d'un diamant cédé l'année d'avant au vieillard et qui avait appartenu au défunt duc de Bourgogne. Et un troisième disait qu'une émeraude, qu'avant de luire dans la fameuse chambre, elle avait été avalée par un serviteur fidèle tombé dans une embuscade. Bref, l'histoire du trésor d'Hermann était souvent répétée au bruit des nappes entrechoquées, tandis que les dés roulaient. Mais beaucoup de pierres, et non des moindres, étaient de provenance inconnue, et au nombre de celles-ci, les rubis de l'écrin vert. À leur endroit, les buveurs se perdaient en conjectures et soutenaient les suppositions les plus inadmissibles. Aucun n'avait, au cours de ses voyages, contemplé pareils joyaux, même assez lents. Et puis, comment expliquer leur multiplication et deviner quel rajah en déconfiture se démunissait presque chaque année d'une telle merveille au profit d'Hermann. Était-il possible qu'un écrin pareil existât réellement? Parvenus à ce point de la conversation, quelques-uns pensaient peut-être certaines choses, mais comme le lapidaire rémunérait ses hommes largement et sans retard, nul ne se souciait de prononcer des phrases nuisibles à une bonne renommée qui faisait leur fortune. Et de nouveaux entretiens se mêlaient au choc de l'étain, au roulement des osselets hasardeux. Hermann devinait les racontages. Il avait senti nettement l'hostilité de ses adversaires et béni l'aventure opportune du goitre qui l'en avait délivré, pour quelque temps du moins. Mais dans cette occasion, pensa-t-il, quelqu'un avait dénoncé ses longues retraites dans la chambre aux cornues. Qui ? Smarag, assurément, puisque nul autre que lui ne connaissait l'existence de cette salle et de son contenu. Cette délation méritait une semonce, malgré l'inconscience et la bonne volonté du coupable. Il fut donc tensé paternellement et sans colère. Tout surpris d'avoir mécontenté son maître, il jura de ne plus souffler mot de ses actions. Mais la réprimande avait donné à celle-ci une importance mystérieuse, insoupçonnée jusqu'alors, et Smaragd se mit à les épier. Toutes les fois qu'il eut à mettre en ordre la chambre détestable, cause première de l'admonestation, il en inspecta soigneusement tous les coins. Et si Hermann avait été plus clairvoyant, il aurait remarqué, avec un étonnement satisfait, l'absence de poussière et de toile d'araignée dans les endroits les plus inaccessibles, tant Smaragd mettait d'ardeur à fouiller méticuleusement les cimes des armoires, à sonder les gouffres des tiroirs et à scruter la forêt des fioles d'un torchon soigneux et indiscret. Il ne trouva rien. Dans un coffre des lancettes, des scalpels gisaient, l'air méchant et nu. Leur aspect donnait la sensation d'une coupure. Des vases étaient remplis d'onguents de liquides aux couleurs équivoques. Des ballons de verre enfermaient un vide plus inquiétant qu'une liqueur empoisonnée. Un foyer noir était sans feu. Nul cristal ne luisait sur l'établi du diamantaire. Tout cela semblait dormir d'un sommeil sournois et attendre le réveil inconnu qu'Hermann provoquerait. Smaragd, de plus en plus absorbé dans ses recherches stériles, redoublait vainement d'ardeur et sa curiosité déçue, fouillant de la trousse au laboratoire et de l'officine à l'atelier, allait d'un problème insoluble à des énigmes encore plus indéchiffrables. La difficulté de ses perquisitions s'aggravait d'ailleurs de ce qu'il en ignorait le but précis. Persuadé de faire d'importantes trouvailles, il aurait pu dire leur nature et se niait, acharné à la poursuite de découvertes chimériques, accomplissait un exploit d'apparence tellement stupide qu'on aurait pu se demander s'il n'y avait pas là quelque chose de fatal. N'ayant pas réussi dans cette investigation, il résolut de surveiller les agissements de son maître lorsque celui-ci s'enfermait dans la chambre. Hermann y travaillait presque toujours le soir, après son retour de la maison Spironcelli, et son labeur se prolongeait parfois fort avant dans la nuit. Bien souvent, Smaragd avait entendu le grincement du diamant sur le diamant, des bruits de bouteilles remuées, et la respiration essoufflée du lapidaire qui, se faisant très vieux, geignait à la tâche certaines nuits de fatigue. Il était même arrivé qu'il ne quittât sa besogne qu'au matin, livide avec les pommettes rouges, l'œil creux, mais alors il venait d'achever la taille de quelques joyaux favoris, Et c'est aux clartés de l'aurore que les rubis géants avaient presque tous essayé leur facette neuve. Smaragd s'en souvenait bien. Ces aublats étaient inoubliables. Comme il avait dû peiner le pauvre maître chancelant pour changer en flamme dans cette chambre de veille les gemmes qu'il y avait apportées, troubles tels que du vert ou bien obscurs comme des cailloux. Et le valet se plaisait à revoir par le souvenir la forme première des pierres aujourd'hui parfaites de symétrie et parvenues au paroxysme de leur scintillement grâce à toutes ces nuits blanches. Il voulut alors évoquer l'apparence primitive des rubis et soudain une idée essentielle se déploya dans son esprit, mais si brusque, si énorme, qu'il crut sa tête trop étroite pour contenir une pareille explosion. Les rubis étaient sortis de la chambre sans y être jamais entrés. Puis, ayant tout de suite aperçu, comme de loin, cette conclusion sensationnelle, sa pensée machinale se mit à gravir les derniers échelons de raisonnement qu'il lui restait à franchir pour arriver logiquement à cette étrange solution. Smaragd avait ignoré l'existence de chacun des rubis jusqu'à ce que Hermann, après de longues détentions justifiées en partie par la délicatesse de leur taille, les eût exhibés un par un et d'année en année tel qu'il reposait actuellement sur le velours vert. Mais pourquoi eût-il caché ces joyaux contre sa coutume, quand ils étaient encore bruts ou mal taillés? Se trouvait-il donc dissimulé dans la chambre? Quelqu'un les avait remis à Hermann par une fenêtre? Le jugement rudimentaire et droit de Smaragd ne pouvait admettre que de semblables explications les plus naturelles. Mais comme elles étaient incompatibles avec les habitudes de son maître, et que nulle cause d'une dérogation à ses règles immuables n'apparaissait plausible à Smaragd, il se refusait à tenir pour vraies les seules présomptions rationnelles, et bouleversé par ce labeur cérébral, inusité moins encore que par son résultat, il retournait en tous sens l'idée affolante et dut bientôt s'avouer que le raisonnable se trouvant impossible, la vérité ne pouvait être que dans l'absurde. Et Smaragd, voyant l'ombre s'épaissir à mesure que ses yeux devenaient plus perçants, employa toute sa vigilance à observer les manœuvres d'Hermann cloîtrées dans la salle mystérieuse.